Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Ben.
Salut à tous.
D'ATH.
Salut à tous, j'ai faim.
On enregistre le vendredi soir, je
Ça
précise.
Ça commence bien.
Et de Mandren.
Salut tout le monde, moi aussi j'ai faim.
Ces gens qui ne prévoient rien et qui ne mangent pas avant le podcast, voilà. Faut être prévoyant un peu, messieurs. Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera de deux projets Kickstarter. On enchaînera ensuite sur Final Fantasy XV. On évoquera également Kingdom Come Deliverance. Nous parlerons de Gen System, de Warcraft 3, ainsi que du lancement d'un nouveau magazine papier. Ça s'appelle Player's Spirit. Sans oublier notre gros sujet de discussion de la semaine, c'est un sujet sur la distribution de la presse. Vous allez voir, il y a des choses graves qui se passent en ce moment dans le milieu de la presse, et à mon grand étonnement, personne n'en parle. Bon, peut-être que ça a un lien avec le statut des acteurs en présence, on va dire. On verra ça tout à l'heure. Bon, messieurs, on commence. Nous allons parler, Ben, d'un Kickstarter qui s'appelle Once Upon a Coma.
Voilà, donc un nouveau projet Kickstarter qui est un petit jeu de plateforme, aventure, action, on sait pas exactement. Le pitch, comme son nom l'indique, c'est un petit garçon qui se réveille d'un coma et qui sort de chez lui et qui se rend compte que ben il n'y a plus d'adultes et que le monde qui l'entoure a changé. Étonnamment, il va prendre une lame de rasoir et partir explorer tout ce qui se passe un peu aux alentours.
Voilà.
Pour le pitch.
Alors, je précise, en gros, c'est un projet contemplatif, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que pour avoir testé la démo, parce qu'il y a une démo, pour le coup, le gameplay est très très classique. 2D, vu de côté, les contrôles sont très simples. Un personnage, il peut juste sauter et donner des coups avec sa lame de rasoir. Je pense pas que ce sera un jeu avec un gameplay complexe. Le but du jeu, très clairement, enfin, c'est de mettre en avant la musique, j'ai l'impression, parce que la bande-son, par contre, est hyper travaillée. C'est un jeu qui est pas original pour un sou. Par contre, ce que je trouve assez cool, c'est que il a quand même une ambiance, quoi. Il y a un contraste, si vous voulez, entre l'univers qui est extrêmement joli et l'écriture derrière qui a l'air sombre, quoi. Quand t'as des gamins que tu rencontres qui t'expliquent qu'il n'y a plus d'adultes dans le village, ça a plus la musique hyper joyeuse et tu te rends compte qu'il n'y a pas du tout de raison d'être très joyeux vu l'univers. Bon, après, on va être honnête, il arrive un peu après la guerre de ce genre de jeu-là. Mais après tout, écoute, apparemment, il a un public et tant mieux pour lui. ATH.
Il y a une petite air de Limbo dans ce jeu-là, j'ai l'impression, en fait.
Ouais,
c'est-à-dire Limbo, c'était beaucoup plus sombre visuellement. Là, c'est beaucoup plus coloré, beaucoup plus chatoyant.
Mais en termes de rendu, c'est le même type de rendu, effectivement, que Limbo.
Ouais, et puis j'ai l'impression, tu sais, qu'il va y avoir des petits moments un peu creepy. Parce qu'on va dire que, quand même, dans Limbo, il y avait quand même des passages dérangeants. Et là, ce qui pourrait différencier le jeu, c'est par rapport peut-être au scénario, ou ce qu'il va raconter par rapport à la musique, ou bien du coma.
La présence d'autres personnages aussi.
Ouais, et je trouve ça assez intéressant de voir sur le thème du coma, ce qu'ils peuvent essayer de raconter, en fait.
En tout cas, univers intrigant, c'est très propre, ça fonctionne, il y a une chouette ambiance. Donc si vous êtes amateur de ce genre d'expérience contemplative, allez tester la démo, ça pourra vous plaire.
Sachant que le jeu a déjà été financé. Hein.
Voilà.
Demandez 22 000 euros, ils en ont 46 000, donc ils sont bien lancés en tout cas dans cette campagne Kickstarter.
Je répète ce qu'on avait dit dans le dernier numéro, on ne vous incite pas du tout à aller financer le jeu. Parce qu'on sait voilà, que les stretch goals, ça donne des mauvaises idées parfois.
Et la livraison est prévue pour octobre. Voilà.
Tout à fait. Allez, Mordren, tu vas nous parler d'un autre projet. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout une ambiance bucolique, onirique. Là, on est dans du serious business.
Oui, on n'est pas là pour enfiler des perles. Ça s'appelle Foundation. C'est un projet Kickstarter canadien. En tout cas, qui se finance avec des dollars canadiens. L'objectif, en fait, de ce jeu, c'est ni plus ni moins que de révolutionner, entre guillemets, le city builder. Alors oui, pourquoi pas. En fait, c'est un city builder qui est médiéval. C'est quelque chose qu'on voit assez peu, finalement, dans le domaine des city builders. Alors là, comme ça, qui me vient en tête, j'ai Banished.
Mais qui n'était pas qu'un city builder, pour le coup, en plus.
Aussi. Et j'avais beaucoup joué à ce jeu-là, que j'avais beaucoup aimé. Et la différence, en fait, de Foundation, c'est que là où les city builders classiques vont vous proposer de créer vos villes à partir d'une grille de carrés, c'était le cas dans Banish, c'était le cas dans City Skylines, etc. Là, en gros, l'idée, il y a un truc qui revient souvent dans leur description de projet, c'est organique. L'objectif, c'est que les villes que vous créez ressemblent peu ou prou à des villes qui existaient en fait au Moyen-Âge. Donc, ça va pas donner des villes comme dans Banished qui ressemblent vraiment à des villes américaines avec des zones de rectangles, etc. Là, ça va être vraiment le côté bâtiments qui sortent de terre de façon un petit peu anarchique, quoi, comme on pouvait le voir à l'époque.
ATH.
Il y a juste quelque chose qui me dérange en fait moi dans le trailer. Pourquoi c'est aussi moche? C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir un vieux jeu iOS. Comment il s'appelle? Les pubs là du jeu de merde là, Clash of Clans. Voilà. J'ai l'impression de voir ces petits personnages là en fait dans le jeu. Et du coup, c'est un petit peu dommage, ça dessert un peu pour moi le jeu en lui-même quoi. Après c'est très intéressant par rapport au fait qu'ils veulent faire des villes vraiment médiévales, mais ils ont dû faire peut-être un autre rendu, je pense.
Alors je sais pas trop en fait si je suis d'accord. Moi je trouve que c'est plutôt joli. Alors après il y a effectivement l'aspect gestion qui entre en ligne de compte parce que ce n'est pas qu'un city builder, puisque pour arriver en fait à ce rendu un peu anarchique dans les constructions de zones, le joueur en fait il va pas placer chaque bâtiment. Il va placer, voire créer les bâtiments importants, genre typiquement le château. Par contre le jeu va vous dire mais écoute, peins-moi entre guillemets cette zone que tu veux faire, donc à tel endroit, dis-moi si tu veux une zone résidentielle, commerciale, etc. Et à ce moment-là, en fait, c'est les petits personnages qui vont bâtir ces bâtiments. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, le joueur va aussi devoir, si vous voulez, se concentrer sur la collecte de ressources. Voilà, il y a aussi cet aspect-là dans le jeu qui n'est pas présent finalement dans d'autres city builders modernes. Donc du coup, voilà, tu vas placer des bâtiments comme des moulins, des boulangeries, des églises, des carrières, des scieries, ben, un truc assez classique finalement pour du RTS, enfin qu'on voyait dans Banished par exemple, mais qu'on voyait assez peu dans des city builders modernes. Il y a aussi un aspect intéressant qui est, est-ce que la population s'entend bien? Et du coup, il y a trois grande zone qu'il va falloir choyer, c'est le clergé évidemment, qu'on sait qu'était très important au Moyen-Âge, la noblesse et la paysannerie. Donc il faut faire en sorte en fait que ces trois populations s'entendent bien entre elles. Et dernière chose assez intéressante aussi, il va y avoir des espèces de ce qu'ils appellent des rencontres narratives aléatoires en fait qui vont vous permettre de renouveler votre expérience de jeu. Donc ça a l'air plutôt cool, très ambitieux. J'ai pas dit combien ils voulaient. Mais c'est quasiment financé, en fait. Hein. Ils veulent, donc en euros, ça représente 48 000 euros. Ils en ont déjà 41. Il reste 19 oui. jours de campagne, donc c'est clairement financé. La livraison finale est prévue pour octobre, à savoir qu'il y a des phases d'alpha et de bêta qui sont prévues très bientôt. Donc ça donne quand même une idée de l'aspect finition du jeu.
Bon, après, on sait qu'on est sur Kickstarter et que les dates sont faites pour ne pas être respectées, n'est-ce pas?
Voilà. Donc, l'alpha est quand même prévu dans l'état actuel des choses, hein, bien sûr, en avril, et la bêta est prévue pour juin. Voilà.
Dans le côté City Builder, ça me fait un peu penser, alors un jeu qui n'en est pas un à l'origine, c'est à Civilization, notamment au 5. Tu vas dire, bah là, ça va être une zone d'habitation, une zone de pour une carrière, etc. Et après, c'est tes personnes qui vont le construire, mais ça va pas faire des trucs super droits, etc. C'est à ce côté-là, je trouve, un peu, même dans le style.
Ouais. Mmh. Ah oui, je l'ai pas noté. Ce qui est marrant, en fait, c'est que là où on est habitué à créer les routes dans un city builder habituel, là, en fait, c'est le pathfinding des petits personnages, en fait, qui va à force, qui passe toujours aux mêmes endroits, c'est là que ça va créer les...
Ça va creuser une route, génial, en quelque sorte.
Ça va creuser les routes.
Il y a plein de petites features comme ça qui...
Ouais. Alors, c'est super intéressant. Par contre, si le pathfinding est pété, ça peut faire des trucs dégueulasses.
C'est ça. Tu vas voir des villes dégueulasses, ouais.
On passe à la suite, messieurs ?
Ouais.
On va maintenant parler, Ben, de Final Fantasy XV.
Et oui, Final Fantasy XV qui, ça y est, arrive sur PC le 6 mars avec une démo jouable un peu avant le 26 février. Donc, c'est début de semaine prochaine. Et dans cette démo, on apprend qu'il y a une collaboration avec Half-Life. Voilà, voilà.
What?
Oui, oui, tu as bien entendu. Je ne sais pas qu'en dire de plus, si ce n'est que ce jeu me surprend encore, pas dans le bon sens du terme, plus d'un an après sa sortie. Donc c'est...
Ouais.
Voilà. Je suis pas sûr que les joueurs PC soient contents de ce partenariat, à vrai dire.
Alors, par contre, il y a une très bonne nouvelle du côté de Final Fantasy XV, c'est le fait qu'il n'y aura pas des nouveaux. Et ça, quand même, oui, pour une fois qu'un éditeur est pas con, je tenais à le saluer, c'est suffisamment noter, rare pour être noté, quand même. Donc, si c'était un facteur limitant pour vous, pour peu que le jeu vous intéresse. Personnellement, il ne m'intéresse pas du tout, je vous le dis tout de suite. Mais pour une fois que l'on a un gros éditeur qui fait un effort là-dessus, merci Square Enix.
Ça veut dire qu'il sera sans DRM au cas où vous ne connaissiez pas, quand même.
Mais je pense que nos éditeurs...
Je pense aussi, mais bon...
Oui, je pense que c'est, ils sont au fait.
Je pense, ouais.
Ils nous ont tellement entendu radoter là-dessus que voilà. Allez, on enchaîne. À moins que ATH ait son petit trollounet sur Final Fantasy XV à placer, ou c'est bon.
Qu'il en a même plus à stock tellement il en a fait.
Non, mais c'est juste que... Enfin, moi, ce qui me désole, en fait, dans Final Fantasy XV, c'est toute la communication qu'il y a derrière, quoi. Noctis qui devient Gordon Freeman, Noctis qui va dans Soul Calibur, enfin dans Tekken, je crois. Enfin bref, ce qui me chagrine le plus, c'est que non content de ne pas avoir fini l'histoire pour un jeu qui était censé sortir il y a plus de 10 ans, Square Enix rempile pour 2019 en annonçant que il y aura un quatrième épisode censé conclure le chapitre du scénario du jeu. Et c'est ça qui m'énerve en fait, c'est que le jeu est sorti sans histoire, sans rien du tout. Et ils sont obligés de te vendre des season pass pour combler les trous qui ont été faits. Surtout que déjà avec la qualité des trois précédents qui sont sortis, qui correspondaient en fait à chacun des trois alliés de Noctis, bah ça racontait pas grand chose. Là, ça va se concentrer sur d'autres personnages qui étaient vraiment assez, on va dire, absents dans le jeu de base pour combler un peu les trous et les vides scénaristiques. Mais en général, quand tu sors un jeu, surtout un RPG, l'histoire c'est quand même la chose principale, quoi. Enfin, Final Fantasy XV, moi, la seule chose que je retiendrai de cette blague, c'est quand même juste l'OST du jeu, qui était très bonne, mais mis à part ça, enfin, voilà, quoi.
Bon, on va maintenant parler d'un autre RPG qui se vend très bien, pour le coup. C'est
un autre jeu qui est pas fini, d'ailleurs.
Deliverance. Ah oui, un autre jeu qui est pas fini, pour le coup. Et genre, c'est le pas fini au-dessus de Final Fantasy XV, parce que...
Ouais.
Enfin, disons que, contrairement à FF15, tout le contenu du jeu est là, on va dire. Par contre, là où ça pêche, c'est les finitions, quoi. C'est des bugs de partout.
C'est la qualité de la finition, ouais.
C'est un peu, tu sais, les RPG PC à l'ancienne, genre Vampire Bloodlines, etc., qui sortaient complètement pétés. On va dire que c'est une marque des grands sur PC. Voilà.
On se rattrape comme on peut, ouais.
C'était le cas de Fallout 2 aussi. Hein. Fallout 1 et Fallout 2,
oui,
il y
oui,
avait quelques
vrai.
Soucis à la release. Hein. Et on ne reparlera pas, évidemment, des Elder Scrolls qui...
Qui sont toujours
malheureusement
pas bien finis,
trop...
d'ailleurs.
Ouais, qui ne sont toujours pas finis et que c'est les fans qui finissent le jeu. Voilà. Donc, Kingdom Come Deliverance, qui est sorti la semaine dernière, se vend très bien. Il est déjà à 1 million d'exemplaires. Ce qui est étonnant quand même pour un RPG purement médiéval. Il y a zéro fantasy dedans. Avec une finition à la pisse, quand même, disons-le. Une grosse finition à la pisse. Et surtout, un peu hardcore sur les bords, quoi. Donc, je précise, Kingdom Come Deliverance, c'est le jeu qui dit tu vas jouer un péon et tu vas souffrir. Donc, le fait qu'il marche autant, ma foi, ben, alors d'un côté, je grince un peu des dents parce que vous savez que ça me dérange toujours autant quand il y a un jeu qui finit à la pisse comme ça, qui se vend. Mais de l'autre, ça fait plaisir aussi de voir qu'un jeu avec un concept bien précis se vend. Ça appuie un peu ce qu'on disait, vous savez, quand on parlait d'extra crédit. Des fois, quand tu fais un bon concept qui parle à un certain public, un public de niche, bah écoute, ça peut trouver son public pour peu que ce soit bien fait. ATH ?
Ouais, c'est exactement ça. Je pense que Kingdom Come Deliverance répond à une attente, c'est-à-dire que bah les RPG avec des dragons, des fantômes, enfin, toutes sortes de créatures mythologiques, on en voit beaucoup, mais des RPG en fait assez réalistes, c'est assez rare, enfin, du moins ancré dans une réalité historique. Je pense au jeu que Mordrain aime bien, c'est Mountain Blade, je crois, qui sont un peu dans le même délire, mais mis à part ça, enfin, il y en a pas 36 000. Et je pense que si ça aurait été le contraire, qu'on aurait eu que très peu de RPG, on va dire, avec des dragons et tout ça, et qu'il y en aurait un qui serait sorti du lot, voilà, en fait, c'est juste en fait par rapport à une offre et une demande.
Oui.
Disons qu'il répond à une question simple, en fait. Qu'est-ce que tu apportes? Et ça, en général... Une fois que t'as répondu à cette question-là, pour peu qu'il y ait un public en face qui soit demandeur de ce que t'as apporté, bah ça marche. Encore une fois, regardez quoi. Enfin, je veux dire, le machin il finit la pisse et en plus il tourne pas top sur toutes les configs. Et pourtant ça se vend. Écoute, s'il y avait encore besoin d'une preuve que les beaux graphismes ne font pas tout, Quoique, il est quand même très joli, hein, je tiens à le dire.
Ah bah, quand il tourne bien, il est très joli, voilà. Oui, je confirme.
J'aime bien la précision de mon rendu, quand il tourne, hein, oui.
Non, mais moi, en l'occurrence, je le fais tourner en 2500 par 1440, sans problème.
Oui, mais tu as quel carte graphique aussi, mon rendu?
J'ai eu une 1080. Voilà. Mais bon, a priori, enfin, moi, j'ai lu des tests comme quoi, ça, même sur les grosses, grosses cartes, ça tournait pas forcément très bien. Donc, bon, j'ai sans doute eu de la chance.
Tu sens quand même le jeu qui est pas super bien optimisé, malgré tout, ouais.
Oui, parce que je tenais par contre à dire une chose aux gens qui disent « Ouais, mais chez moi, ça marche bien !» On sait que ça dépend du mix de composants qu'il y a dans l'ordinateur,
bien sûr,
que des fois, il y a des trucs qui marchent chez l'un, qui marchent pas chez l'autre. Tant mieux si pour vous, ça marche, tu vois. Mais le fait est que quand tu regardes les stats sur Steam, que tu vois les gens qui donnent un avis négatif parce qu'ils ont un problème, il y a un problème sur ce jeu, c'est tout. Tant mieux si ça marche pour vous, encore une fois, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème sur le jeu. Mmh. Et c'est un peu facile à chaque fois de dire l'excuse, ouais, mais c'est parce que les gens, ils ont mal installé leur driver, pas forcément.
Non, mais il y avait un exemple avec Batman Arkham Knight qui était sorti sur PC dans une version catastrophique. Il y a eu des personnes chez qui le jeu tournait correctement, mais la plupart des autres, en fait, si tu veux, le jeu, c'était injouable, quoi. Si ça tourne bien chez vous, bah tant mieux, mais c'est pas le cas en fait de tout le monde, c'est-à-dire que normalement il y a une configuration minimale qui est recommandée, n'importe quel type de joueur PC qui aurait cette configuration-là devrait faire tourner le jeu correctement. Malheureusement pour Kingdom Come Deliverance, c'est pas le cas quoi.
Morwen.
Ouais, c'est assez dommage, moi je suis d'accord avec vous hein, évidemment. J'ai trouvé ça drôle en fait parce que avant vous savez sur Can You Run It, qui est un site en fait qui va regarder ce que vous avez comme composant dans votre PC pour vous dire si tel jeu vous arriverez à le faire tourner et si c'est en bonne qualité, en mauvaise qualité, etc. Et avant, en fait, le jeu le plus recherché par les joueurs, en fait, c'était Crysis, le premier.
C'était c'était l'étalon pour beaucoup.
Ouais. C'est ça. Et en fait, maintenant, c'est Kingdom Come.
Le
ce qui veut dire quand même quelque chose.
Il n'y a pas de réponse définitive à cette question, je crois, malheureusement.
Mais non, mais c'est pour ça que c'est un petit peu dommage que les démos, en fait, ont disparu des stores pour le PC, quoi. Parce qu'en général, t'aurais une démo, tu pourrais tester pour voir si le jeu tourne correctement chez toi. Et c'est vrai que, mis à part Final Fantasy XV, les sorties de démos sur PC en 2018, ça se fait très rare, quoi.
Bah sur les gros jeux, ouais. Ou alors en général, ouais, tu sais, elles arrivent quand le jeu il a pas marché.
Ouais.
Oui.
Ils ressortent un peu après. Ouais.
Voilà, un peu après la bataille.
Bah, souvent c'est remplacé par des week-ends gratuits.
C'est ça, c'est ouais, c'est plutôt
quoi.
Ça, ouais.
Bref, dans tous les cas, moi je vous le dis, Kingdom Come Deliverance, c'est un jeu que j'achèterai. J'attends juste les patchs parce que j'ai pas envie de me gâcher l'expérience sur un jeu qui me fait envie comme ça en fait.
Oui.
Bon bah prends rendez-vous en 2022. Hein.
Non mais je pense que d'ici un ou deux mois il y aura moyen. Là je veux dire les mecs ils ont gagné du pognon parce que très clairement pourquoi ils l'ont sorti dans cet état aussi. À un moment donné de notre côté il faut aussi comprendre que les gars à mon avis ils avaient plus de pognon.
C'est ça au bout d'un moment il faut que l'argent
rentre.
C'était
la sortie de la dernière chance tu vois. Il faut rappeler que c'est quand même un jeu qui a été financé par crowdfunding. Ils ont eu un investisseur privé mais ils n'ont pas eu non plus des sommes astronomiques. Ça reste un développeur indé qui a réussi à se faire une place quoi. Voilà.
Non mais moi je pardonne plus facilement ce genre d'errance technique sur un jeu indépendant que c'est un jeu voilà qui est édité par un gros éditeur quoi.
Je préciserai ATH sur un jeu indépendant qui n'a pas de moyens. Je ne pardonnerai pas ce genre d'erreur technique sur Star Citizen.
Oui, mais
donc,
voilà.
De toute façon, il sortira jamais, donc, pas de souci à se faire, quoi.
Ou c'est n'est pas vrai, d'ailleurs.
Oui.
Non, mais c'est ça que je veux dire, parce qu'en fait, le jeu, là, qui sort dans cet état-là, parce que c'est, entre guillemets, Kingdom Come Deliverance, c'est un petit jeu qui veut faire comme les grands, c'est-à-dire comme les Skyrim, avoir un monde ouvert. Il y a quand même beaucoup de choses dans ce jeu-là, si c'est pas un jeu indépendant.
Il y a de l'ambition.
Voilà. Je veux pas être méchant avec les jeux en 2D, tout ça, ou bien avec les gens pixel art, mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins lourd à gérer qu'un jeu de cette envergure-là.
Ouais,
non, mais c'est pour ça que je dis que je pardonne plus facilement pour un jeu comme ça que par exemple pour un Skyrim, quoi.
Bon, Morwen, alors c'est juste le message de soutien de la semaine, parce que c'est un dossier qu'on va suivre et qu'on ne lâchera pas. On va parler deux secondes de Eugène System, où est-ce qu'on en est?
Ouais, petite piqûre de rappel en fait. Donc cette semaine, on a fêté entre guillemets tristement la semaine de grève en fait chez Eugène Systems. Pour rappel, il y avait donc une quarantaine d'employés grévistes chez donc ce développeur qui est surtout connu pour ses jeux RTS. À savoir quand même que depuis le 22, il y en a certains qui ont choisi de se remettre au travail. Donc il reste plus que 15 grévistes. On vous rappelle quand même que donc ils se battent pour faire respecter leur droit à leur statut, parce qu'ils sont payés en dessous des minima salariaux qui sont prévus dans leur convention collective. Même si c'est une convention collective pourrie, il y a quand même des minima qui ne sont pas respectés a priori par l'employeur et des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. On vous rappelle également qu'il y a une caisse de grève qui est disponible si vous voulez soutenir ces personnes, parce que se priver d'une semaine de salaire, c'est quand même déjà beaucoup. Et donc, c'est des grévistes qui vont continuer à faire la grève pour l'instant. Donc, voilà, ça peut devenir assez compliqué assez vite.
Sachant qu'aux dernières nouvelles, la direction fait la sourde oreille.
Exactement.
Je vous mettrai le lien vers la caisse de grève, encore une fois, hein, pour ceux qui seraient intéressés. Vous donnez pas, c'est vous qui voyez. Mais nous, on les soutient. Voilà. On va parler maintenant, Mandren, de Warcraft 3.
Oui, qui l'eût cru, parler de Warcraft 3 en 2018, c'est quand même pas banal. Blizzard a sorti un nouveau patch sur Warcraft 3 qui supporte en fait les écrans larges, donc qui permet en fait de jouer au jeu sur des écrans un petit peu plus modernes, on va dire. Également, la capacité pour les joueurs de créer des matchs à 24. Oui, pourquoi pas. Et puis, des petites améliorations sur l'éditeur de map. Alors, pourquoi on vous en parle? Parce qu'en fait, Blizzard, on le sait, il y a toujours eu des rumeurs sur Warcraft 4. Et en ce moment, en fait, on parle pas de rumeurs sur Warcraft 4, mais des rumeurs de remake sur Warcraft 3. Alors, du coup, c'est évidemment pas tombé dans l'oreille de sourds, hein, cette annonce de patch, et Blizzard a fait une annonce qui dit que ce n'est qu'un commencement et qu'ils ont en tête des idées un petit peu plus grandes et qui sont voilà, peut-être éventuellement en train d'être travaillées sur le long terme.
Sachant qu'ils ont annoncé un tournoi aussi.
Voilà, ils ont annoncé un tournoi effectivement, et que voilà, ils prennent une approche un peu à tâtons, enfin, en essayant de pas trop casser la méta du jeu. Mais en tout cas, Blizzard a l'air de se réintéresser au jeu. Ce qui est intéressant parce que ces rumeurs de remake de Warcraft 3 arrivent quasiment un an après la sortie du remake de Starcraft 2.
Du Starcraft 1, tu veux dire?
Starcraft 1, excuse-moi, bien sûr. Voilà, les gens commencent à se dire, bon, Warcraft 3, le remake, ça commence à être une donnée, là.
Alors, je sais pas pour toi, Mandren. Autant je trouve ça cool qu'ils rajoutent des fonctionnalités, d'ailleurs c'est pas la première fois qu'ils sont sortis un patch, ils en avaient déjà sorti un l'année dernière. Bon, c'est bien qu'ils le fassent, hein. Franchement c'est suffisamment rare pour être noté, hein. Il y a plein d'autres éditeurs qui auraient jeté le bébé avec l'eau du bain. D'ailleurs on sait que les éditeurs récemment se sont opposés à une initiative aux États-Unis pour tenter de faire une exception au copyright pour les jeux en ligne. Ouais, non, mais ça nous créerait des concurrents, etc. Vous n'y pensez pas, voilà, enfin bref. Donc moi j'apprécie que Blizzard entretienne Warcraft 3. Maintenant, enfin, remake de Warcraft 3, sérieux.
C'est pas vraiment ça qu'on attend, quoi.
Warcraft 4, bordel! J'en ai rien à foutre d'un remake de Warcraft 3, je veux Warcraft 4!
Ah,
c'est clair, non?
L'un n'empêche pas l'autre, hein.
Honnêtement, en termes de communication, j'imagine mal Blizzard lancer en grande pompe un remake pour derrière lancer un Warcraft 4. Surtout que, bon, derrière t'as World of Warcraft, etc. Pourquoi je pense pas qu'il y aura un Warcraft 4 aussi? Parce que, wow. Et le truc, c'est que le scénar de WoW, il évolue en permanence. Donc du coup, comment ça se passe, tu vois?
Ah, parce est-ce que tu le fais avant, Warcraft, est-ce que tu World le fais après? Warcraft, c'est, enfin, c'est... le scénario, ça se suit, quoi. C'est...
Ah bah parce oui.
Que...
Ah
enfin, oui. Non, mais moi, j'en sais rien du tout. Enfin,
ah oui. Non, mais je te confirme que ça se suit, oui. Pour l'avoir pas mal suivi au début, parce que moi, j'étais un fan du lore de Warcraft 3. J'ai lâché à partir du moment où ils ont transformé les taurennes en paladins, mais c'est un autre sujet, hein. Disons qu'à partir d'un moment, le lore de Warcraft est parti totalement en couille, quoi, avec WoW. Mais oui, ça se suit. Donc c'est pour ça que moi, je ne pense pas qu'il y aura de Warcraft 4, en fait. Et ça fait des années que je suis persuadé qu'il n'y en aura pas un. Mais s'il devait y avoir un Warcraft, moi, enfin, un remake de Warcraft 3, en tout cas, je ne sais pas ce qu'en pense Mandren, qui pour le coup, comme moi, est amateur de RTS avec des bonnes grosses campagnes solo et un univers riche. Oui, Warcraft 3, j'ai déjà fait, en fait.
Bah ouais, et en plus, est-ce que ça va être Warcraft 3 plus Frozen Throne en remake? Ce qui, auquel cas, bon, pourrait être pas trop cher pour des gens qui l'auraient pas fait, mais pour quelqu'un qui l'a déjà fait. Bon, effectivement, il y a toujours la tentation de le refaire. Mais moi, j'ai quand même envie... Tu vois, on sait que Starcraft 2 est en perte de vitesse. On sait, effectivement, bon, que le genre du RTS, c'est pas un genre qui est très sexy en ce moment.
Bah, encore que, avec le succès de Day of Billions,
c'est vrai.
Il y a un petit frétillement, quoi.
Ouais, c'est vrai. Après, c'est pas exactement le même genre. Voilà, c'est pas du RTS compétitif. Enfin, si, c'est compétitif, mais dans
disons
le point
que
de vue scoring.
Disons que c'est plus un
mais...
RTS survie des RBS. Oui. Et on sait que c'est le ça. Mot survie en ce moment, c'est...
C'est un petit peu à la mode.
Ça prime des billets.
Voilà, c'est le genre avec un twist, si tu veux. Mm. Mais le RTS compétitif, à l'heure actuelle, il est incarné uniquement par StarCraft 2, et on sait tous que StarCraft 2 est clairement en train de mourir.
Ouais.
Personnellement, je vois le genre péricliter, mais est-ce que ça serait pas le moment, justement, pour Blizzard de se dire, tiens, on sort les doigts, on sort Warcraft 4, et on est reparti pour 10 ans d'e-sport RTS, tu vois. Mais je sais pas si c'est quelque chose... Enfin, en tout cas... Vu l'annonce et vu les rumeurs, est-ce que c'est vraiment quelque chose dont ils se sentent capables ? Je suis pas certain du tout.
Bon, tu vas garder la parole, mon cher Mandren ?
Oui.
On va parler d'un nouveau magazine papier.
Oui, c'est étonnant, étant donné le sujet dont on va parler tout à l'heure,
oui.
Mais...
Ils ont pas choisi le bon timing,
oui.
Je pense, personnellement.
Ouais, c'est clair. voilà, je vais vous faire le topo vite fait. C'est un magazine qui va s'appeler Player Spirit. Ça va être un format tous les 2 mois. Donc, on en aura 6 par an. Ça sera vendu 12 €, hein, donc on part quand même sur un magazine plutôt premium qui sera probablement avec un format un peu MOOC, donc entre le livre et le magazine, comme ça se fait de plus en plus, ou comme ça se faisait d'ailleurs à l'époque d'IGMag. Et la particularité de ce magazine, c'est qu'il est incarné par des figures assez célèbres de l'ancien, entre guillemets, journalisme jeux vidéo. Donc ceux qui l'ont un petit peu créé, j'ai nommé AHL, GM Destroy, Matt Murdock et The Killer notamment, à savoir qu'il y aura aussi l'ouverture à d'autres plumes, peut-être un petit peu moins connues. Mais voilà, l'objectif en fait, c'est de traiter le jeu vidéo sur un aspect rétro gaming, avec donc toute leur expérience de journaliste vieux de la vieille, mais aussi de faire des ponts avec le milieu du jeu vidéo actuel. Donc par exemple, il y a un sujet là dans le premier numéro sur Zelda NES versus Zelda Switch, un face-à-face qui se fait entre ces deux opus d'une saga phare. Donc ça peut être intéressant.
Que c'est d'autant plus intéressant que le proto de Zelda Switch ressemblait étonnamment à l'épisode NES.
Et que justement Zelda Switch, enfin donc Zelda Breath of the Wild, est un jeu qui se propose de réécrire la formule. Donc forcément, c'est un sujet qui peut être très intéressant. Il y aura de l'interview, et il y aura voilà certainement un style que l'on connaissait à l'époque, qui s'est peut-être un petit peu perdu. Donc voilà, c'est un peu ça le concept de Player Spirit.
Alors, c'est dommage que Pixel ait eu un petit souci technique avant que l'on commence un podcast. Oui, on est maudit sur ce podcast, hein, je précise au passage.
Oui, comme un podcast.
J'aurais bien aimé avoir son avis sur ce sujet parce que moi, je suis un peu mitigé. C'est-à-dire que s'il s'agit de faire un magazine, tu sais, un peu à la Pixel Love, qui va avoir un regard sur le passé, qui va faire du journalisme, tu vois, sur le passé, ça peut être intéressant. Par contre, si c'est, comment dire, un pur objet nostalgique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire,
oui,
c'est pas du tout ma cam. Parce que pour le coup, s'il y a bien une époque de la presse que je ne regrette pas, c'est celle-là, quoi. Enfin, je suis désolé, je me rappelle du journalisme qu'il y avait à l'époque. C'était pas forcément un journalisme qui était hyper critique. Et je suis gentil parce que Pixel, il serait là, mon ami, il en rajouterait une bonne couche derrière. Franchement, les noms que t'as évoqués au début, Mandren, moi, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail qu'ils vont produire, quoi, en fait, concrètement. Et par exemple, ce que tu as dit sur Zelda, là, ça m'intéresse. Tu vois, on fait une comparaison entre le passé et le présent, etc. On remet en contexte. Il y a du taf derrière, quoi. Par contre, si c'est juste faire un joli magazine où les gens vont se pignoler, oh là là, c'était mieux avant. Non, parce que déjà, moi, je fais pas partie de ces gens qui considèrent que cette époque-là, enfin, je dis cette époque-là, mais en fait, l'époque qui couvre a l'air tellement large que je suis même pas sûr qu'on puisse dire ça. Mais ils parlent d'âge d'or, en fait. Et oui. Enfin, pour moi, c'est pas l'âge d'or, hein. Je suis désolé, l'âge d'or, il est maintenant pour moi. Donc, tu vois, je suis pas du tout nostalgique, hein, c'est dire. ATH.
Là, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que j'espère qu'ils vont pas faire, en fait, un magazine qui va se concentrer que sur le rétro, le jeu vidéo, c'était mieux avant. Le concept a l'air assez cool, par exemple la comparaison Zelda NES vs Zelda Switch. Ça, c'est le genre de petit truc qui peut être bien, de revenir sur certains faits marquants de l'histoire du jeu vidéo, d'expliquer pourquoi on en arrive là aujourd'hui, faire des vraiment des dossiers qui va dans le fond des choses. Ça, ça pourrait être intéressant, mais si c'est pour parler toujours des jeux dont la plupart, on a déjà tous entendu parler, par exemple, si c'est pour nous reparler encore une fois de Shenmue, de Final Fantasy VII, c'était bien, mais il faudrait peut-être tourner la page, tu vois. Enfin, il y a d'autres choses aujourd'hui qui se font. Donc, à voir comment ça va être fait, parce que pour l'instant, le magazine n'est pas encore sorti. On peut pas donner un avis là-dessus. Ce qui est cool, par contre, c'est que j'aimerais bien qu'ils gardent cette espèce d'humour ou bien d'insouciance qu'ils avaient dans les années 90, c'est-à-dire faire des magazines, tu sais, un peu avec un humour un peu grinçant, ces genres de choses-là. Ça pourrait être le côté qui pourrait m'intéresser dedans, quoi.
Mordred, non ?
Ouais, alors moi, pour le coup, le côté humour un peu grinçant, ça me parle pas spécialement. Enfin, moi, si j'ai envie d'un truc avec un petit peu d'humour, etc., moi, je lis Canard PC, tu vois. Mais je confirme, moi, ça me fait pas rêver non plus ces noms. Moi, j'étais trop jeune, en fait, pour les connaître. Donc, je les ai jamais lus, en fait, ces gens-là. Je crois que je suis pas encore la cible de ce magazine-là qui cible clairement les trentenaires bien tapés.
Alors, pour le coup, moi qui suis trentenaire bien tapé, tu vois, même moi, ça me...
T'as expliqué pourquoi, d'ailleurs. Mais, en fait... Tu vois, moi, le souci, c'est AHL, ça me fait pas rêver, mais alors du tout, parce que le seul rapport que j'ai eu avec son travail, en fait, c'est ce que j'ai vu sur Gameblog, et alors pour le coup, ça me plaît pas, mais alors pas du tout. Moi, je pense que c'est peut-être un peu cher, enfin, faut le vouloir, hein, les payer les 12 euros, donc j'espère quand même que l'objet sera joli. On a vu quelques petites maquettes, donc...
La maquette est classe, en tout cas.
La maquette est plutôt cool.
Hein.
C'est plutôt pas mal. Moi, effectivement, il y a toujours le risque du quand on regarde trop le passé, à se dire oui, bah c'était quand même mieux avant. Genre, il y avait pas Steam, il y avait pas tout l'Indiepocalypse, machin. Enfin bref, les jeux, on les payait prix comptant. Il y avait pas de soldes, il y avait pas d'évaluation. Voilà. Il y avait pas d'évaluation du prix du jeu vidéo. Enfin bref, j'ai un peu peur aussi qu'on revienne sur des trucs que tout le monde connaît. La guerre Nintendo-Sega, la guerre PlayStation-Nintendo, enfin...
La guerre des consoles.
Tu vois, ça c'est pour... S'il y a un truc dont je me branle, c'est bien ça, tu vois. Mais ce que j'attends d'un magazine comme ça, c'est pas spécialement leur expérience à eux, en fait. Leur côté, moi, j'ai connu ça, je vais vous expliquer comment c'était. Je veux du vrai journalisme, en fait, dans des choses comme ça. L'offre est tellement pléthorique, en fait, dans le jeu vidéo, dans la presse jeu vidéo en France, mais aussi dans l'édition de bouquins jeux vidéo, que finalement, j'ai peur que tous les sujets un petit peu généraux qui pourraient traiter dans ce magazine-là, ça soit déjà traité ailleurs, et pas forcément moins bien d'ailleurs. Typiquement, genre revenir sur une saga, t'as Pix & Love qui fait ça tout le temps, t'as Sœur d'édition qui fait ça tout le temps.
Bah, surtout que, juste, quand Pix & Love le fait, en plus, c'est du vrai journalisme, c'est-à-dire qu'ils vont interroger des gars de l'époque, ils te sortent des trucs dont t'as jamais entendu parler, enfin voilà, quoi.
Ah oui, j'ai un travail d'archivage qu'ils font, enfin, de désarchivage plutôt, parce que je me rappelle, Florent Gorge, le mec, il était parti jusqu'au Japon pour chercher des trucs sur Nintendo, donc déjà Nintendo, c'est ultra compliqué pour y accéder, et il avait une anecdote qui était super sympa, il racontait que, d'un moment, ils avaient un peu faim, donc il y avait une dame qui vendait des pommes juste devant, et ils sont partis lui parler, et au bout d'un moment, enfin, ils parlaient de Nintendo devant la dame, et la dame a dit, ah ouais, mais moi, vous savez que ça fait plus de 30 ans que je suis là, et puis elle leur a donné des anecdotes sur Nintendo, et grâce à elle, ils ont pu justement trouver des choses sur lesquelles, normalement, on n'aurait pas pu avoir accès, et du coup, ça a été après publié dans les livres.
Très bien, ce podcast de Gameblog, d'ailleurs. Du temps, ils étaient bien.
Ouais, mais c'est vrai, c'était la bonne époque, d'ailleurs. Mais tu vois, là, moi, je suis en train de lire l'histoire de Zelda par Oscar Le Maire, et c'est passionnant. Mais est-ce que un magazine comme celui-ci peut se permettre de traiter des sujets comme ça? Je ne pense pas. Du coup, il va falloir qu'ils réinventent un petit peu, tous les deux mois finalement, ce qu'ils ont à dire. Et c'est quand même un vrai problème, entre guillemets. Enfin, c'est une vraie problématique d'eux, et c'est certainement une question qui se sont posées, évidemment, en tant que journaliste avant de créer tout ça. Mais j'espère, en tout cas, que c'est pas un magazine qui ne va parler nostalgique de cette époque-là, de ces plumes-là, etc., mais qui peut aussi être grignoté par des gens qui ne les ont pas connus, à qui ils pourraient apporter des choses. Voilà, c'est les questions que je me pose. Mais évidemment, moi, je suis toujours content quand il y a une nouvelle offre jeu vidéo qui se met en place et qui a l'air un peu sérieuse quand même.
Si on évite d'avoir des dossiers sur les top 5 Mario vs Sonic, déjà, ça serait pas mal.
Non, mais parce que il y en a aussi des magazines qui font ça, qui se sont lancés, qui sont clairement nuls à chier. Tu le vois sur leur couverture, tu vois. Mais là, on est clairement dans une offre qui est premium. Alors, j'ai pas encore eu le temps de lire les extraits d'articles qui sont proposé en maquette, mais voilà, j'espère que le contenu sera aussi premium que le contenant.
Oui, parce qu'encore une fois, là, on juge pas le magazine. Hein,
ah non, non,
on dit
non.
Juste ce qu'on en attend, et voilà. Bon, alors, par contre, comme on le disait, ils ont pas choisi le bon timing. Hein.
Non.
Putain, dans genre timing foireux, ça se pose là, quoi. On va vous parler du sujet de la semaine maintenant, et le sujet de la semaine, c'est Prestalis. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Prestalis, c'est le principal distributeur de presse en France. En gros, ils représentent 70% du marché de la distribution, sachant qu'ils n'ont qu'un seul concurrent, et que ce concurrent, en partie, dépend de Prestalis pour la distribution des quotidiens. Donc ça veut dire que s'il y a un souci avec Prestalis, un jour ou l'autre, même eux, ils seront embêtés. Donc Prestalis, qui est le principal distributeur de presse en France, ne va pas bien. Il faut savoir que c'est une coopérative, c'est-à-dire que dès qu'un éditeur est distribué par Prestalis, il a un vote au conseil d'administration. Il faut savoir donc que cette coopérative est détenue à 80% par les grands groupes de presse. Hein, Libération, Le Monde, etc. Enfin, avec tous les noms qui sont derrière. Hein. On va pas refaire le film. Donc, depuis décembre, ils ont un souci, et pourquoi on le sait ? Parce que en décembre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ponctionné 25% des revenus des ventes de tout le monde. Tout le monde. Que ce soit Le Monde ou que ce soit Canard PC. Je parle de Canard PC, évidemment, parce que c'est de là que j'ai eu ma source pour ce sujet. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, 25% des revenus en décembre, sachant que c'est un des plus gros mois de l'année pour eux, et comme le dit si bien Yvan Godet, c'est un mois qui permet aussi également de compenser, tu sais, pour les mois un peu plus creux. Quand te pompes 25% là-dessus, déjà, tu mets les gens sérieusement dans la merde. Mais ce n'est pas tout. Prestalis n'allant pas bien, il faut qu'ils trouvent des solutions. Sachant qu'en plus, ils disaient plutôt que c'était génial qu'ils allaient faire un bénéfice de 5 millions, et puis du jour au lendemain, ils sont passés d'un bénéfice de 5 millions à moins 20 millions dans la caisse. Donc, apparemment, y a trop de titres qui sont distribués. Visiblement, le principal souci, c'est que, comme tu sais, il y a une obligation de pluralité. Les buralistes, etc., se retrouvent avec énormément d'invendus, etc., ce qui fout une merde pas possible, et ce qui fait donc perdre énormément de pognon, de ce que j'ai compris. Ça, plus le fait qu'apparemment, ils ont jeté de l'argent par les fenêtres dans des applications, tu sais, pas très utiles pour téléphone et ce genre de choses. Donc apparemment, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un trou dans la caisse. Et donc, en attendant qu'ils se réforment, parce que du coup, le groupe peut pas continuer comme ça, quoi. Il faut bien qu'ils aient de l'argent. Et donc, pour qu'ils aient de l'argent, il y a pas tant de six solutions. Hein. Ils sont allés voir l'État. Donc l'État leur a dit, ok, je vous prête. Attention, hein, je vous prête 90 millions, mais vous remboursez. Sachant que les gros éditeurs de presse vont aussi prêter 50 millions d'euros. Sauf qu'un prêt, évidemment, il faut le rembourser. Et c'est là où on commence à rentrer dans le dur. Il aura annoncé en janvier, là, que ils vont prélever 2,25% des revenus des ventes pendant 4 ans et demi. Oh. Alors, vous allez me dire, 2,25% des ventes, là, comme ça, ça n'a pas l'air trop.
Mais...
Oui, non, mais c'est pas parce que 2,25% du revenu des ventes, c'est plus que la marge que se font les petits éditeurs, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont perdre de l'argent.
Putain.
Voilà. Donc c'est pour vous dire l'état dans lequel est la presse actuellement, parce que Prestalis est en position quasi-monopole, hein, c'est un peu le Valve.
Ah oui, c'est vraiment ça.
Des distributeurs de presse, quoi. Sachant que on pourrait se dire, si par exemple on est dans le cas de Canard PC, parce que Canard PC, il faut savoir qu'ils sont dans une situation bien particulière. Il y a Canard PC classique qui est chez leur concurrent, donc la maison lyonnaise de presse. Et il y a Canard PC Hardware qui, par contre, est toujours chez Prestalis. On pourrait se dire que comme Canard PC est chez la maison lyonnaise de presse, ils vont limiter les dégâts. Sauf que ça marche pas comme ça, en fait. Comme je vous l'ai expliqué en tout début, la maison lyonnaise de presse dépend en partie de Prestalis pour la distribution des quotidiens. Ce qui veut dire que Prestalis a la main sur les sous que la maison lyonnaise de presse doit reverser à ses membres, tu vois. Et donc, Prestalis fait du chantage à la maison lyonnaise de presse en disant que même les gens qui sont chez eux vont devoir verser 2,25% du revenu de leur vente.
Putain.
Alors qu'ils sont pas chez Prestalis, hein. Concrètement, ça s'appelle de l'extorsion, hein. On est d'accord.
Comment c'est possible qu'on laisse faire un truc pareil? C'est ni plus ni moins du racket.
Voilà.
Et c'est aussi de l'assassinat.
Oui, c'est de l'assassinat, sachant que, attends, c'est pas fini. Parce que là, j'ai lu un tweet d'Yvan Godet tout à l'heure. Ils ont bloqué aussi les revenus qui doivent aux gens qui sont chez la maison lyonnaise de presse. Ce qui est interprété comme un moyen de pression, en fait. Concrètement. Voilà.
Dans la folie.
Donc, je sais pas si vous réalisez, ça veut dire, concrètement, que dans quelques mois, si ça continue comme ça, on n'aura plus du tout de presse indépendante en France. Et personne n'en parle.
Personne
et bizarrement, n'en parle. Pourquoi personne n'en parle? Attends, tous ces gros titres là, c'est qui derrière? ATH.
Moi, ce que je trouve marrant, c'est que la décision est prise totalement arbitrairement, sans consultation aucune vis-à-vis des journaux de publication. De plus, c'est Prestalis qui a fait la merde. Je vois pas pourquoi, en fait, les titres de presse indépendants devraient rinquer, alors que c'est pas eux qui ont demandé à Prestalis de sortir des applications de merde ou ce genre de choses-là. Et le problème, c'est que ça les met dans la merde, mais en plus de ça, pire, c'est que les journaux pourraient être fermés. Et comme tu l'as dit, Mandren, ça s'appelle tout simplement du racket.
Et je précise, c'est du racket légal.
Oui, c'est, non, mais
parce
c'est
que
le pire,
pourquoi
ça.
Pourquoi ils sont obligés de verser 2,25% de leur revenu? Parce que c'est une société coopérative. Dans une société coopérative, tous les membres ont l'obligation de verser la même somme.
Oh là là.
C'est là où c'est le piège, tu vois, c'est que légalement, ils sont obligés en plus de dire oui. Alors là où par contre on est dans la ligne de la légalité, c'est quand ils commencent à bloquer les revenus des membres de la maison lyonnaise de presse. Parce que là, pour ouais. le coup, Prestalis agit en prestataire, qui est payé pour ça.
J'ai un peu de mal à comprendre comment ils ont le droit de faire ça.
Ah mais ils ont pas le droit en fait, c'est ça le truc. Et d'ailleurs, apparemment, de ce que j'ai lu, enfin... Par contre, je suis pas du tout juriste, etc. Moi, je rapporte ce que j'ai lu sur Twitter et ce genre de choses. La maison lyonnaise de presse incite ses membres à porter plainte.
D'accord.
Voilà.
Ok. Bon, bah c'est bien tout ça. Parce ouais. que du coup, moi j'ai lu l'édito d'Yvan Godet, rédacteur en chef de Canard PC, qui parlait justement de ce racket. Hein. C'est vraiment une situation de racket. Et qui dit en gros que ça fait quasiment 15 ans que Canard PC existe et que Canard PC pourrait cesser d'exister à cause de cette décision, parce que clairement en fait les 2,25% ben ils les ont pas puisque c'est leur marge en fait. Mmh. Ils ont déjà pensé à une solution, ils l'ont annoncé d'ailleurs dans cet édito là, le 1er mars en fait ils vont lancer une campagne de financement participatif pour les aider à survivre en fait, parce que il faut trouver comment fonctionner pendant 4 ans et demi avec 2,25% de revenus en moins, avec zéro marge, en fait, pendant 4 ans et demi, comment veux-tu faire autrement que de te tourner vers ta communauté, en fait, et de leur faire confiance?
Et surtout que, dans ce cas-là, là, on parle de Canard PC, très clairement, tu vois, Canard PC, les gens qui utilisent ça, c'est que même des joueurs, ils connaissent un peu Kickstarter, comment ça fonctionne,
ouais.
Mais je suis pas sûr que, par exemple, sans vouloir faire de jugement ou quoi que ce soit, mais... Par exemple, pour Voile Magazine, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés par ce type de système-là et ne sont pas habitués à utiliser la chose telle que les joueurs le font, quoi.
Mais le truc, en fait, c'est que au-delà de ça, parce que là, Canard PC, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lancer une campagne de financement participatif à base d'abonnements de soutien.
Et même eux, avec ça, ils sont pas du tout certains de s'en sortir. Hein.
Bien sûr, parce que en fait, ce qu'ils demandent aux gens à l'heure actuelle, c'est donc de s'abonner. Enfin, je suppose que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander aux gens de s'abonner deux fois.
C'est ça, d'acheter le magazine ou l'abonnement sur le site, plus de financer cette campagne.
C'est ça. Il y a forcément une part des gens qui, d'un point de vue financier, peuvent pas soutenir. Et c'est compliqué, en fait, de demander à des gens de s'abonner deux fois au même magazine. Alors imagine des gens qui sont abonnés à plusieurs magazines. Il va forcément y avoir des morts, en fait.
Et puis même, ce qu'expliquait Yvan Godet, c'est que c'est pas une solution de toute façon, parce que...
Non.
Pourquoi c'est important de les distribuer? Parce que ça te permet de toucher un nouveau public, en fait.
Ah oui. C'est de la visibilité,
tout ça. Et si
t'as
plus ce réseau de distribution, ça veut dire que tu te reposes sur une base d'utilisateurs qui va forcément baisser au bout d'un moment, et c'est pas une solution. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'au départ, je m'étais dit, bon, ils ont une solution de repli qui est la maison lyonnaise de presse. S'ils arrivent à tenir le temps que, en gros, la maison lyonnaise de presse remplace Prestalis, peut-être que s'ils avaient eu cette solution remplie là, on avait peut-être une solution sur le long terme, quoi. Mais là, en fait, il n'y a pas de solution sur le long terme. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que même un magazine comme Canard PC va forcément, au bout d'un moment, se retrouver dans la merde, sauf si peut-être, je sais pas, ils développent leur site internet et que du coup, ils deviennent principalement un site internet et que derrière, il y a un magazine papier en bonus, tu vois. Parce que là, concrètement, c'est la seule solution que je vois. Et c'est même pas sûr qu'ils arrivent à survivre comme ça, quoi.
Ouais, c'est un vrai problème, et c'est là-dessus qu'ils ont eu le nez creux finalement, parce que leur digitalisation, ils l'ont mise en branle il y a un an et demi maintenant, avec une campagne de financement participatif, on s'en rappelle, d'ailleurs une des plus grandes campagnes de financement participatif pour de la presse en France, et le souci en fait, c'est que là va arriver le coup près, c'est-à-dire que maintenant, tous les abonnements qui ont été créés par Kickstarter il y a un an, ils vont se terminer en fait en mai prochain. Et c'est là, en fait, qu'est le coup près. Parce que si les gens qui ont été abonnés pendant un an, dans trois mois, soit ils oublient de se réabonner, soit ils décident de pas se réabonner, soit ils ont plus assez d'argent pour se réabonner au prix normal, parce que on se rappelle quand même que pendant la campagne de financement participatif, bah, c'était des abonnements qui étaient moins chers. Si tous ces facteurs-là entrent en ligne de compte, là, on peut vraiment arriver à une crise pour Canard PC. Et en plus de ça, deux mois avant, du coup, ils ont relancé leur campagne de financement de soutien. Pour ces gens-là, ça va peut-être faire beaucoup, et moi, ça me fait peur, en fait, pour Canard PC. J'ai envie de faire preuve de confiance et de positivisme, parce que moi, je sais que c'est ce que je vais faire, je vais les soutenir, et je vais me réabonner. Mais est-ce que tout le monde va pouvoir faire ça? C'est ça le souci. Et est-ce que, pendant 4 ans et demi, ils vont réussir à maintenir le mode survie? Ou est-ce qu'ils vont, du coup, bah, totalement digitaliser leur offre et dire, eh ben, écoutez, Canard PC, bah, maintenant, c'est plus qu'un site web. Et c'est aussi une possibilité. Mais c'est aussi faire le choix du repli, finalement, sur une communauté qui est existante. Et faire le choix de se dire, bah, les gens, ils vont nous connaître grâce aux réseaux sociaux si notre communauté nous partage. Mais c'est tout, quoi.
Et là, vous réalisez qu'on parle de gens qui sont parmi les plus confortables.
Ouais.
Dans le lot,
oui.
Là. Hein.
C'est vrai.
Et vous voyez à quel point eux, déjà, ils sont dans la merde. Alors, imaginez le petit éditeur de presse indépendant, à quel point ça le met dans la mouise, quoi. Moi, c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet cette semaine, parce que c'est super flippant ce qui se passe. On est quand même, dans, soi-disant, dans une démocratie où on va se retrouver avec tous les éditeurs de presse indépendants qui vont jarter. Et où il y aura plus que les gros qui sont détenus par certains grands noms, etc. Comme s'ils n'étaient pas déjà assez gros, soit dit en passant.
Ouais.
C'est inquiétant. Si on devait juger l'état de la démocratie d'un pays à l'état de sa presse, en tout cas, ça pue du cul. Hein. Voilà, désolé pour ce sujet pas très joyeux, mais il fallait en parler parce que c'est un sujet dont on ne parle quasiment pas. Et ça m'étonne parce que moi, je le trouve extrêmement grave.
Ah oui, c'est un sujet qui est gravissime, et je m'étonne quand même que sur des rédactions qui sont censées être indépendantes de leurs actionnaires, on ne traite pas cette info-là. Tout à l'heure, j'ai cherché Canard PC parce que je recherchais l'édito pour le relire d'Yvan Godet, et le seul truc que j'ai vu sur la question, c'est Next Impact.
Le Monde aussi a fait un article, mais c'est okay. Genre, ils remettent pas du tout en cause le truc, quoi. Ils exposent les faits, machin, clic-clac, merci, au revoir, quoi.
Ouais, mais parce que là, en fait, ce qui me gêne énormément, c'est que, au final, l'État a donné un prêt, donc il devrait être regardant sur comment ils font pour recouvrer la somme. Parce que c'est juste pas des façons de procéder, de dire, ok, alors tu nous donnes 90 millions pour sauver la presse française, mais ces 90 millions, en fait, comment on fait pour te les rembourser? Ben, on tue la presse française. C'est ridicule. Ça me paraît incroyable. Alors, je suis quand même content qu'il y ait une éventuelle prise de position juridique qui se fasse via l'agence de presse lyonnaise, par les presses lyonnaises, pardon, parce que du coup, il y aura forcément une médiatisation de cette chose-là. Mais est-ce que ça va suffire? Je sais pas. Et je te rejoins sur le côté, tout le monde n'a pas la chance d'être Canard PC et d'avoir une communauté aussi fidèle et aussi capable de soutenir financièrement. Ça concerne aussi des tirages qui sont plus grands. Hein. Moi, je pense à Première, par exemple. Première, le magazine cinéma, qui, ça fait des années qu'ils sont dans la dèche économiquement et ils passent de main en main, d'actionnaire en actionnaire, et à chaque fois, ça ne marche pas et ils sont en galère. Et je me dis que ça, c'est des trucs qui peuvent tuer des grands magazines, des classiques, en fait. Mais pas seulement que des petits, en fait. Faut que les gens se rendent compte que c'est un problème qui est gravissime.
Voilà. Bon, on va conclure là-dessus. Très joyeux.
C'est ça.
Enfin, je me suis pas rendu compte au début, tu vois. Puis, au fur et à mesure que j'épluchais le truc et je voyais la situation, en fait, je me dis, mais waouh, quoi. Enfin. Ouais.
En fait, ça sent vraiment l'impasse, en plus. C'est ça qui est compliqué, quoi.
Parce que, quoi qu'il arrive, on peut pas laisser Prestalis crever.
Non.
Parce que si Prestalis crève, de toute façon, la maison Lyonnaise de Presse actuellement n'a pas les moyens de reprendre le relais, notamment sur tout ce qui est quotidien. Et c'est pas pour rien qu'ils passent par Prestalis pour une partie de leur service. C'est qu'ils ont pas les moyens de le faire. Imaginons Prestalis crève et demain la maison Lyonnaise de Presse reprend le relais pour essayer de reconstruire un truc. Le temps qu'ils reconstruisent le truc, il y aura une plein de morts, quoi. Waouh. Bon, allez, on s'arrête là pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.
Salut tout le monde.
Salut.
Ciao.